Donc, la question du temps va, pour le mois de juillet, se développer aujourd'hui à partir du temps du commencement. Et on essaiera d'aller jusqu'au temps de la fin, ce qu'on appelle l'eschatologie. Peut-être en finissant d'ailleurs par le livre de l'Apocalypse, comme ça, ça ferait une sorte d'unité. Dans ce déjà, je vous indique que la fois prochaine, je vous propose de travailler sur le livre de Coëlette, au chapitre 3. Il y a un temps pour toute chose. Ça nous permettra de travailler sur la question du temps et de la durée, en fait. Coëlette, ou Ecclésiaste, selon la traduction, chapitre 3, Coëlette. La fois prochaine. Pour aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le premier texte de la Bible, Genèse 1. C'est le premier récit de la création. Et je vais tâcher de vous montrer que ce premier récit de la création pose la question du temps. Il instaure le temps. Nous verrons de quelle manière il dit quelque chose du temps et de quelle manière cette chose peut être utile pour nous-mêmes. Je propose qu'on commence par lire l'intégralité de ce texte. Je vais vous le lire, comme ça vous allez pouvoir prendre connaissance dans la mesure où je ne vous avais pas prévenu. Donc je vous le lis et puis après on rentre dans la chair. C'est une traduction Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Peut-être que j'aurais pu vous donner une indication. Tant qu'à faire une lecture, essayez de faire une lecture, vous allez repérer tout ce qui, de près ou de loin, concerne le temps. Voilà. Comme ça, ça vous fait un petit travail pendant que je vous le lis. Donc, j'en suis au verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le jour 1, dit l'Hébreu. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, le sec espace terre, à l'oral ça tombe mal, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. On en est au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà, alors peut-être que déjà on peut essayer de repérer quelques mots que vous avez relevés au cours de cette lecture qui parlent du temps. Il y en a.
Le matin et le soir.
Donc il y eut un soir, il y eut un matin. Hein, c'est toujours dans ce sens-là, soir et matin. Ce qui laisse entendre qu'on commence par un temps plutôt de repos et ensuite un temps d'activité. Oui. Alors, donc l'action des liminaires, effectivement, qui permettent de distinguer le diurne du nocturne.
Et là, ça commence par le jour.
Oui, mais que la lumière soit et la lumière fut, c'est l'idée que l'accès à la lumière intervient après une période peut-être un peu plus sombre, en tout cas. Et chaque jour est scandé par le fait qu'il y eut un soir et il y eut un matin, quand même. Même si on le verra, la question de la lumière, enfin on ne le verra peut-être pas cette fois-ci, mais la question de la lumière est telle que la lumière l'emporte dans la préférence des auteurs bibliques. Voilà. Mais on le verra aussi avec Josué, je pense. Y a-t-il d'autres... Stéphane,
il me semble que le récit est au passé, mais oui. Dieu s'exprime, c'est au présent. C'est pas un hasard.
Quand Dieu s'exprime, c'est même ce qu'on appelle un jussif, donc c'est comme un subjonctif en français, et effectivement c'est plutôt inaccompli, donc c'est plutôt orienté vers l'avenir, là où tout le reste est effectivement au passé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement les verbes, la conjugaison, désigne un temps.
Entre le verset 11 et 12 par exemple, que la terre produise et la terre produisit.
Oui. Et quand on dit la terre produisit, c'est une action qui a eu lieu dans le passé et qui est finie. Voilà, tel qu'on peut le comprendre. On peut aussi noter le fait qu'il y ait les époques, les jours et les années, effectivement. Ça, on l'a au verset 14. De même, vous auriez pu retenir en principe ce qu'on retient en premier, mais vous êtes allé encore plus loin que la surface du texte, c'est la succession des jours, tout simplement. Oui. Jour 1, oui. Et puis deuxième jour, troisième jour, jusqu'au septième jour. D'ailleurs, il y a un petit élément étonnant, c'est que, je vous l'ai fait remarquer, c'est pas le premier jour, c'est le jour 1 dans l'hébreu, et tous les... donc c'est un cardinal, un nombre cardinal, et tous les autres sont des nombres ordinaux. Donc la différence entre 1 et premier. Il y a le jour 1, et puis ensuite c'est deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Cardinal, c'est le nombre en lui-même, et ordinal, c'est le nombre dans sa succession, dans la suite, dans le classement même. Alors,
il y a une progression dans cette histoire, puisqu'on commence avec les et petit à petit, ça se restreint.
Alors, oui, on va voir que c'est pas tout. Enfin, oui, il y a les ténèbres, et puis au fur et à mesure, c'est un peu comme si la lumière remplissait tout l'espace, mais on va voir que c'est plus que de l'opposition entre la lumière et les ténèbres. C'est aussi l'opposition entre l'ordre et le chaos. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de constater que les nombres sont des nombres ordinaux, c'est qu'il y a une succession d'ordres, là où au début on a, en fait, le terme du verset 2, la terre était informe et vide. Dans l'hébreu, c'est autrement plus intéressant, c'est la terre était tohu wabohu, c'était un tohu bohu. Donc on peut parler de chaos. Si vous avez des enfants ou petits-enfants plus jeunes ou des collégiens dont vous avez la responsabilité, vous pouvez parler de bazar, voire de beans ou de choses moins élégantes. Alors, est-ce que vous avez repéré quelle est la partie de ce texte où il y a la plus grosse densité de mots en rapport avec le temps ?
C'est ça, les luminaires.
Oui, quand on parle des luminaires, donc c'est le verset 14. Hein, verset 14 à 19, disons, c'est là où il y a la plus grosse densité. Ouais. Et c'est le quatrième jour. Et le quatrième jour est au milieu de la séquence des sept jours. Il y a trois jours avant, trois jours après. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que ce texte, avec toute l'épaisseur de sens qu'on doit lui accorder, met quand même un accent sur la question du temps. Le quatrième jour est plus spécifiquement concentré sur la question du temps, et c'est ça qui est au centre du texte. Et dans la langue hébraïque, le centre du texte est en général le centre de la thématique. C'est la pointe, en fait, le sommet. Il y a cela, et puis j'aurai l'occasion de vous montrer comment le vocabulaire qui est utilisé dans ce passage va nous emmener sur autre chose. Alors, d'après vous, de qui dépend le temps ? Comment est-ce que le temps arrive, en fait ?
C'est Dieu. Ensuite, est-ce qu'il laisse le temps libre ? Comme il a laissé le temps libre.
Alors, tout de suite, vous allez au septième jour, vous.
Ah, oui.
Le temps libre et le repos.
Moi, c'est quand Dieu parle, quand Dieu dit,
oui. Quand Dieu dit, ça arrive. C'est ce qu'on appelle une parole performative. Mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a la question du temps ? Oui, mais est-ce que c'est lui qui, en quelque sorte, initie le temps, l'institue ?
Oui, avec c'est marqué dans le verset 14.
Oui, mais...
Les époques, marquer les époques, séparer...
Alors ça, on est d'accord. Mais on a repéré qu'il y avait déjà des éléments temporels. Le premier élément temporel, accessoirement, il est quand même, c'est quand même le premier mot du texte en hébreu. Et donc le tout début, c'est au commencement. Au commencement, c'est intéressant, c'est Bereshit. Dans Bereshit, il faut retenir Resh. Rosh, c'est la tête. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Shuraki traduit par « en tête ». Parce que la tête, c'est le principe. Vous voyez, c'est pas simplement une histoire de chronologie, c'est aussi une histoire d'importance. On avait vu ça, pour ceux qui étaient dans la lecture biblique sur l'évangile de Jean, le début du prologue de Jean, c'est « en arché, en hologos ». « En arché », c'est dans le principe, au principe. On traduit souvent au commencement, mais « arché », c'est aussi la tête. Par exemple, à un moment donné, dans un livre de Samuel, il est question de séparer l'armée en deux ou trois corps d'armée. On va parler de trois têtes. Voilà. Et donc, le commencement ou le principe, c'est le premier mot qui déjà organise quelque chose par rapport au temps. Donc, vous avez dit, effectivement, quand Dieu parle, ça arrive. Mais est-ce que c'est lui qui pose le soir, le matin, premier jour ? Enfin, jour 1, deuxième jour, troisième jour, etc.
Non, c'est la suite de la création du jour, de la lumière.
Oui. Mais ce qui est, vous avez vu, en fait, dès le verset 5, il y a la distinction entre le soir, Erev, et le matin, Boker, mais on l'a avant même qu'on ait le verset 14 et le suivant avec les luminaires qui vont permettre de distinguer le jour de la nuit. Oui.
En français, c'est un instant de temporalité, le verset 3.
Le verset 3, oui. Le verset 3, vous dites... Ah oui, quand vous dites « et lumière fut », oui, c'est... donc, il y a une particule, un vav, qui quasiment donne un principe de causalité, là. C'est ce qu'on appelle un vav conversif, d'ailleurs. Donc, le fait qu'on ait mis une conjonction est tout à fait délibéré. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce qui est étonnant, c'est que on a la mention du soir et du matin qui sous-entendent la nuit et le jour, mais c'est deux jours plus tard qu'on aura les signes qui nous permettent de repérer le jour de la nuit. Une façon de dire qu'en fait... Il faut rester prudent par rapport à ce texte parce qu'on pourrait avoir l'impression que l'on va toucher l'essence du temps, au même titre qu'on pourrait toucher l'essence de Dieu, alors qu'en fait, c'est un récit qui se rédige a posteriori. C'est-à-dire que la personne qui rédige Genèse 1, qui rédige le premier verset de Genèse 1, est déjà au courant de ce qui se passe après. Du coup... Je dirais que c'est un premier élément qui va nous rendre attentifs sur le fait que les jours ne sont pas des jours. Et que ce texte ne saurait être pris comme le récit chronométrique de ce qui se passe. La personne qui écrit Genèse 1 est déjà au courant de la suite. Tout à l'heure, Stéphane nous parlait des verbes qui sont au passé. On pourrait même parler du vocabulaire, en fait. C'est-à-dire que c'est un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire du temps zéro de l'histoire de l'humanité. Au temps zéro de l'histoire de l'humanité, l'hébreu était une langue qui n'existait pas. Et l'hébreu, avec ce vocabulaire et cette syntaxe, c'est un hébreu que l'on retrouve plus volontiers au temps de l'exil à Babylone. Donc c'est le 6e siècle avant notre ère. Pour vous donner un peu des indications temporelles, on estime que David, Salomon, c'est vers moins 1000. Et l'exil à Babylone, c'est disons vers moins 577 pour la chute de Jérusalem. Moïse, si on voulait le mettre dans une chronologie relative, ça serait moins 1200, moins 1300. Donc vous voyez, si on voulait avoir un texte qui serait vraiment à l'époque de la création, on n'aurait déjà pas de l'hébreu. Parce que c'est de l'hébreu, et que l'hébreu, dans cette forme-là, apparaît plutôt au VIe siècle, vous voyez, ça nous déplace considérablement proche, enfin, à proximité de nous. Et si on prend la peine de regarder comment le récit est construit, avec ses problèmes de narration, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui a été physiquement présent, qui écrit au fur et à mesure son journal de bord. C'est ce qu'on appelle un regard rétrospectif. C'est quelqu'un qui réfléchit à la question de la création, à la question de la temporalité, et qui, en fonction des éléments qu'il a à sa disposition, va en fait imaginer un récit de la création. Et quand je dis imaginer, ce n'est pas du tout péjoratif. On pourrait dire qu'il va l'inventer, avec le double sens que ce mot a en français. Inventer, ça peut être créer de toutes pièces, mais inventer, c'est aussi trouver. L'inventeur d'un trésor, c'est celui qui trouve le trésor. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce texte est plus un récit d'archéologie qu'un récit, qui serait un récit de journaliste, en fait. On va retrouver, en fait, une idée de la création en regardant notre présent. Et on va y venir. À partir de ce texte, je vous demandais, d'après vous, ce qu'est le temps, comme ça, spontanément, enfin, en fonction de ce que vous avez en tête et puis de ce qu'on vient de lire. D'après vous, le temps, comment on pourrait en parler à quelqu'un qui ne saurait pas trop ce que c'est ?
Les saisons.
Donc des saisons. C'est ce qui se déroule.
C'est la vie.
Oui, c'est la vie.
C'est le déroulement de la vie.
Oui. Effectivement, on voit que ce texte a un rapport avec la vie qui n'arrête pas de croître, voilà. Même de se multiplier. Mais là, vous êtes quand même déjà dans un rapport très existentiel au temps. Hein.
Dieu est dans l'éternité et nous, humains, dans le temps. C'est Dieu qui a créé dans le temps. À moins
que le temps soit, j'allais dire, le lieu de la rencontre entre le divin et l'humain.
Oui.
Non pas, pas simplement parce que l'humain arrive beaucoup plus tard, il est très probable que l'humain d'abord n'arrive pas le sixième jour, ça c'est sûr, mais qu'il n'arrive que bien après tout cela. Finalement, on peut avoir le sentiment que le temps, c'est une sorte de fiction, on pourrait dire une convention, qui permet de synchroniser le divin et l'humain. Et le temps, c'est peut-être ce qui va permettre de pouvoir lier. Et pour le coup, ce qui va lier, c'est le divin. Je vais essayer de vous montrer ça. Rappelons-nous déjà comment Dieu fait pour créer. Est-ce qu'on a les modalités de la création ?
Par la parole.
Parole ? D'autres avis ? Non, mais là, le texte dit que Dieu parle, et il dit « Je vous rends attentif à un petit détail culturel, c'est le verbe « amar » qui est utilisé à chaque fois, donc on a à chaque fois « wayomer » pour vous le mettre dans l'oreille, « amar ». Il y a un autre verbe qui peut désigner le fait de parler, de discourir, c'est le verbe « dabar » que vous retrouvez dans Déborah. Déborah, c'est l'abeille. Parce que c'est la parole que l'on entend dans le désert. C'est en fait le bruit de l'abeille. Quelle est la différence entre amar et dabar? C'est toujours un peu délicat. Moi, je suivrais volontiers ce que disait le rabbin Marc Alain Wagner à ce sujet, en relevant que dans ce récit de création, il n'y a pas le verbe dabar, que l'on associe pourtant souvent à la parole créatrice. Donc amar, ça serait plutôt la parole créatrice. Dabar, ça serait plutôt la parole législative. Le verbe dabar, on l'a au moment de la sortie de l'arche de Noé, lorsque le divin va donner quelques prescriptions à l'humanité pour qu'elle puisse assurer sa pérennité. Du coup, il y a une confusion, je pense, dans l'esprit de beaucoup de magiciens, parce que vous connaissez la formule magique abracadabra, en fait c'est de l'hébreu. Abracadabra, c'est ou bara kediber. Et bara, c'est verbe créer, c'est celui qu'on a ici. Bereshit bara Elohim, donc en tête, au commencement, Dieu créa. Et donc, ça ne serait pas abracadabra, mais abracahamara, puisque c'est le verbe amar et pas le verbe dabar. Bon, ça ne fait pas partie des questions du trilogue poursuite, donc ça ne vous rapportera pas de camembert, mais c'est quand même bon à savoir.
Excusez-moi, j'en reviens à rien. Vous avez dit que les luminaires étaient au milieu, donc on crée une asymétrie, parce que moi, ça m'interroge beaucoup que la verdure soit avant les luminaires.
Mais si ça ne marche pas.
Ça ne marche pas pour le mettre au milieu, c'est pour ça.
Mais ça ne marche pas si on estime que c'est un récit scientifique qui explique comment les choses ont apparu.
C'est même pas scientifique. Moi, une plante sans soleil, je n'imagine pas.
Ouais, mais ça, c'est un raisonnement scientifique. Ouais. S'il n'y a pas de photosynthèse, la plante n'est quand même pas en bon état. Mais effectivement, en mettant les luminaires au centre du texte, c'est une façon d'en faire le sommet du texte, le point, peut-être la clé d'interprétation du reste du texte, en disant on met l'accent sur la question du temps. Mais du coup, on ne cherche pas à avoir une chronologie en bonne et due forme. D'ailleurs, on peut toujours se demander comment ceux qui sont créationnistes, c'est-à-dire qui considèrent que la création a été réalisée selon la lettre du texte biblique, peuvent s'en sortir avec le fait que la lumière interviendrait après. Sinon que, en fait, la lumière est quand même créée au départ. Hein, que la lumière soit, c'est l'activité de la première journée. Et à la limite, qu'il n'y ait pas de nuit, ça n'empêcherait pas les plantes de vivre, peut-être. Ou il y en a qui supporteraient mal. Mais on va revenir sur le quatrième jour juste ensuite. Tout se passe par la parole. Ça veut dire que le Dieu créateur n'est pas un artisan qui fabriquerait. Si ça se passe par la parole, ça signifie que le fait de créer, l'action de créer, ce que j'ai eu l'occasion de vous dire une fois ou l'autre, c'est de mettre un nom sur une chose et de lui assigner une mission, de lui donner une fonction. Et qu'est-ce que signifie créer dans ce cas? Ça signifie effectivement jeter de la lumière sur un monde confus. Je prends volontiers cette métaphore. Quand vous avez un adolescent qui a sa chambre en tohu-bohu, vous rentrez en lui disant « mais il faut que tu ranges ta chambre » et en fait, il vous explique que tout est bien rangé à sa place. Il vous dit « mais regarde, ça c'est ceci, ça me sert à cela, c'est mal sur sa place. » Et d'un seul coup, la chambre n'est pas mieux rangée, mais pour vous, elle est plus vivable. Et d'un seul coup, le monde est créé par la parole qui explique les choses. De même que lorsque vous expliquez le monde à un enfant ou à quelqu'un, ce monde devient plus familier, moins inquiétant et donc plus vivable. Et c'est cette parole qui est en fait fondatrice du temps. C'est pour ça que je parlais de fiction ou de convention. C'est-à-dire que le temps, vous voyez, le temps n'est pas créé. Le temps n'est pas une créature. On ne dit pas que Dieu crée du temps. Il va créer des signes qui vont nous permettre de pouvoir parler du temps. Il n'y a pas quelque chose comme un temps qui serait, vous voyez, un fluide qui coulerait. Il n'y a pas d'idée, un peu comme l'aurait Parménide, d'un flux qui coulerait de façon continue. Il n'y a pas un continuum. Ici, on parle plutôt de rupture. Vous voyez, il y a des choses qui viennent par à-coup. Il y a quelque chose de plus, et puis encore quelque chose. Il y a une sorte de succession d'instants.
Ça veut dire que chaque fois que Dieu crée comme ça.
Il crée comme ça. Oui, c'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a un avant et un après. À partir du moment où je vais nommer mon enfant, eh bien, il ne sera plus le même être qu'auparavant. Et le monde lui-même ne sera plus le même. Je reconfigure le monde. Vous voyez...
L'évolution.
Oui. Vous arrivez avec un plat sur une table, le fait de le nommer, ça va lui donner une existence. Et c'est encore plus vrai pour ce qui n'est pas de l'ordre du matériel. Parler de l'amour, c'est faire exister l'amour, par exemple. Et parce que ça se dit avec des paroles et pas avec des choses, du coup, on voit qu'on est dans l'ordre de l'immatérialité. Oui.
Donc il y avait quelque chose au départ.
Il y avait l'esprit de Dieu qui se
mouvait. Voilà. Au départ, il y a le tohu-bohu. Voilà. Au sens technique du terme, ce n'est pas une création ex nihilo, c'est-à-dire une création à partir de rien. Il y a quelque chose, simplement, ça ne fait pas sens.
Il l'organise
en donnant du sens à ce qui se passe. On pourrait dire, au fond, l'acte de créer, c'est le fait de donner du sens. Et quand vous regardez de l'art abstrait, ça peut pour vous être quelque chose qui n'a ni queue ni tête, mais quelqu'un va vous en parler, effectivement des choses vont commencer à émerger. Ça peut arriver. Donc, que fait la parole? Elle nomme, et du coup, elle permet à chaque élément de se tenir dans la conscience du lecteur, ou de celui qui écoute, ou de celui qui lit. C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont nommées vont maintenant exister en nous. Ça serait un peu l'approche d'Emmanuel Kant. Et du coup, ces choses se mettent à exister, au sens strict du terme. Elles se tiennent en dehors d'elles-mêmes. En quoi le monde existe-t-il? En quoi le monde est-il créé? C'est qu'il a une réalité tangible pour moi. Il existe dans mon univers. Il y a un monde qui fait partie maintenant de mon monde. Et le temps, c'est cela, c'est cette synchronisation en fait.
C'est pour ça que le verset 10 est important, parce que c'est la première fois que Dieu vit que cela était bon. La configuration du monde. Jusque-là, en somme, on essaye de décrire un processus qu'on ne sait pas trop comment imaginer.
Oui.
Et à partir du moment où la terre est créée, les choses peuvent commencer.
Oui. Et parce qu'il voit, en fait, ça devient vivable. C'est-à-dire ce qui conduit à l'existence. C'est ce que dirait Martin Buber ou Emmanuel Levinas, c'est le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre qui me fait venir à l'existence. C'est-à-dire que je peux être un amas cellulaire, mais je deviens être humain parce que un « tu » fait de moi un « je », pour reprendre Buber. Et c'est ce qui va se passer avec, avec justement ce regard de Dieu. Et tu fais bien de le souligner. Il y a une petite ambiguïté sur « Dieu vit que cela était bon ». Le mot « bon », vous savez, est très, très ambigu. Est-ce que c'est bon comme c'est Madeleine ? Est-ce que c'est bon comme la bonté de quelqu'un ? Il me semble que la meilleure façon de traduire, ce serait justement « vivable ». Valable, mais au sens de vivable. Tout à l'heure, vous disiez « ça conduit à la vie ». Pourquoi ? Parce que un peu plus loin dans le récit de la Genèse, on va voir l'arbre de la connaissance du Tov et du Ra. En fait, c'est Tov, hein, Tov. Et l'arbre de la connaissance, est-ce que c'est l'arbre de connaissance du bon et du mal ? Mais alors, le bon, ça serait quoi ? On voit que finalement, l'arbre était bon à manger. Ça veut dire quoi ? Que ça va avoir un bon goût ou est-ce que ça va me faire du bien ? Et puis, juste après, il y a Dieu qui dit... qui voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais bon en termes de sensualité, est-ce que c'est bon en termes d'éthique ? Et il me semble que si on veut avoir une traduction qui rende compte du fait qu'on utilise le même mot pour ces différentes expériences, vivable est assez intéressant. Il n'est pas vivable que l'homme soit seul. Oui.
C'est un ordre. D'un seul coup, il y a un ordre. Et c'est ordonné.
Oui, c'est ordonné. Voilà, c'est juste... Pas au sens de tu dois faire ceci, mais au sens où c'est classé.
Oui.
Oui. Oui, mais il y a une ambiguïté, donc il faut la lever.
Non, mais pour moi, oui. Il y a de l'ordre, ça devient.
Oui, bon,
ça
devient.
Oui, oui. Mais.
Parce que toutes les choses peuvent pousser.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le disait Philippe, c'est la première fois que l'on a cette mention-là. Et c'est la raison pour laquelle ça me semble vivable, parce qu'effectivement, la terre peut être le support de la vie. Et la mer aussi, d'ailleurs. Hein, mais voilà, la vie va pouvoir émerger. Et donc, il me semble que vivable, c'est une bonne façon d'avoir un mot pour traduire ce mot unique. Et donc, la parole fait exister chaque élément de l'univers, et la parole établit une relation entre la création et les créatures. Donc vous voyez, il y a une sorte de mise en relation. Et c'est ça, à mon avis, l'histoire de la synchronisation du temps dont je vous parlais. C'est que nous allons pouvoir être en relation avec notre environnement. C'est le principe même d'une rencontre. On s'est fixé un horaire de début, on s'est aussi fixé un horaire de fin. C'est ce qui nous permet de partager quelque chose et de pouvoir vivre ensemble. Et de pouvoir vivre quelque chose. Arriver une heure en retard, eh bien, vous ne pourrez pas vivre ce qui était à vivre. Enfin, ici en tout cas. Dans d'autres cultures, c'est encore techniquement possible. Et du coup, la parole, elle fait entrer le monde dans notre histoire personnelle. Vous voyez, en racontant cette création, du coup, cette création fait partie de mon histoire possible. Donc on n'a pas un temps qui s'écoulerait comme Parménide, on a plutôt une succession d'interruptions. Et le divin, c'est ce qui va relier ces discontinuités. Et du coup, créer, eh bien, c'est embrasser dans un même regard des éléments qui sont distincts, et donner du sens en fait. Certains disent, par exemple, le sculpteur, c'est celui qui voit déjà le cheval qui est dans la pierre. C'est-à-dire qu'on arrive à permettre l'épanouissement de la chose ou de l'être. Ce qu'on aura plus tard avec le romantisme, c'est le fait qu'on puisse devenir celui qu'on est vraiment, en fait. Une sorte de révélation. Vous rendre attentif aussi au fait que ce premier récit de la création se distingue des autres mythes du Proche-Orient en ce sens qu'il est universel. Il ne concerne pas un peuple en particulier, il ne concerne pas une tribu, c'est pour l'ensemble de l'univers. Il y a un côté universel. C'est pas pour un peuple en particulier. Et du coup, c'est un texte qui nous oblige parce qu'il nous rend solidaires du reste. Et c'est bien le jeu de la temporalité, par opposition à l'espace. On peut considérer qu'on est dans un espace qui n'est pas le même espace que celui de mon lointain, par exemple. En revanche, en termes de temporalité, on est dans le même temps. Et donc le temps a un pouvoir unificateur plus fort que l'espace. L'espace a tendance même à séparer, le temps a tendance à rassembler. Après, on peut créer des fuseaux horaires, hein, mais... Quand on vit tous dans le même temps, on ne vit pas tous dans le même espace, en fait.
Moi, j'ai remarqué quelque chose au 29.
Au 29. Alors, peut-être que comme le 29, c'est plutôt vers la fin, on va, voilà, on va juste le prendre un peu après.
Parce que là, il y a quelque chose qui...
Là, je vais essayer de vous montrer, justement, sur ces versets 14, ce qui se joue. Puisque c'est là que nous avons une densité de marqueurs. Donc, déjà, vous redire les mots. Donc, on a bien « soir » et « rêve » et « matin » « boker ». Le jour, c'est « yom ». Ça vous fait penser à « Yom Kippour », par exemple. C'est le jour, disons, du grand pardon. Le jour de l'expiation. Ensuite, marquer qui sont des signes. Signe, c'est hôte. En hébreu, en grec, ce serait séméion. C'est le mot qu'on utilise aussi pour les miracles. Les miracles qui font signe, qui font sens. C'est un mot intéressant, hôte, parce qu'il utilise la première lettre de l'alphabet hébreu, le aleph. Il utilise la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le tav. Et au milieu, il utilise la conjonction de coordination. Donc, hôte, le signe du temps, c'est en fait... de A à Z, c'est l'alpha et l'oméga. Oui, c'est une sorte de récapitulation. Ensuite, on a les époques. Alors ça, si vous lisez le Talmud, c'est utile, parce que c'est méode. C'est à la fois les époques, les saisons et les fêtes, surtout. Et il y a traité méode dans le Talmud. Donc, jour, on l'a. Et puis, les années, les shanim. Ensuite, on a effectivement les luminaires qui vont être ces signes. Est-ce que vous avez repéré quel était le grand luminaire et quel était le petit luminaire ?
Pour éclairer la Terre, ça peut être le soleil, je pense.
Oui.
Et la Lune.
Voilà.
Elle préside à la nuit.
Oui. Présider. Présider au sens de dominer. Quand on parle de nos domaines, de nos possessions, de notre domination, on utilise ce mot-là, justement. Alors, maintenant, les luminaires qui sont, enfin, vous l'avez répété plusieurs fois, qui sont vraiment l'élément décisif, ils sont construits sur la racine or, la lumière, donc maor, le luminaire. Est-ce que vous avez une idée d'autres textes où on le trouve, ce mot-là ? Le mot luminaire. Maor.
Les textes dans la Bible, vous voulez dire ?
Oui, textes dans la Bible.
Le luminaire ?
Le luminaire dans la Bible, où est-ce qu'on le trouve encore ?
Les chandeliers avec la lumière ?
Oui, c'est ça.
L'Apocalypse ?
Ouais, moi je pensais plutôt au livre de l'Exode et le récit de construction du temple. Mais après, on a effectivement un chandelier à sept branches qui rappelle la menorah du temple, en fait. Et donc, en fait, on a le vocabulaire du temple ici. Parce que Moed, qui est le temps, la saison, c'est aussi l'attente de la rencontre, l'attente d'assignation, comme on dit. Alors, je vous donne quelques références, comme ça vous pourrez les regarder chez vous tranquillement. Donc, il y a Exode chapitre 23 verset 15, il y a Exode 27 verset 21, et puis Exode 28 verset 43, et pour la question de l'attente de la rencontre notamment, au chapitre 29, on a les versets 4, 10, 11, 30 et 32. 4, 10, 11, 30, 32. Pour ce qui est des luminaires, pour que vous voyez bien que ça fait partie du matériel du temple, toujours dans le livre de l'Exode, on a au chapitre 25 le verset 6, au chapitre 27 le verset 20, au chapitre 35 les versets 8, 14 et 28. Ça a été écrit après l'Exode, mais il y a une partie de l'Exode qui a été écrite en même temps en fait. Mais ce n'est pas parce qu'il est avant dans la Bible qu'il a été écrit avant, au contraire. Donc, on a les saisons qui sont le vocabulaire du temple. On a les luminaires qui sont le vocabulaire du temple. Je vous ai rendu attentif au fait que Yom, c'était un jour, enfin, et donc il y avait aussi un rapport avec le temple éventuellement. Shana, Rosh Hashanah, ça vous dit quelque chose, c'est le nouvel an. Et il y a fort à parier que nous ayons ici, en fait, l'allusion que veut établir l'auteur, c'est-à-dire que à un moment donné où le temple n'existe plus, il y a quand même un nouveau temple qui est disponible, et c'est le temple de la création, et où le temps va tenir lieu de murs et de toits, en fait. Donc, on rentre dans une temporalité. Dans une certaine mesure, on voit qu'il y a une sacralisation du temps, notamment sur la fin avec le septième jour. Il y a Dieu qui sanctifie le septième jour. C'est étonnant, quand même. Eh bien, c'est, à mon avis, parce qu'on passe d'une piété qui s'exerce exclusivement dans le temple à une piété qui s'exerce désormais dans le temps. Et l'avantage du temps, c'est qu'il permet ce que ne permettait plus le temple de Jérusalem, mais que permettait encore la tente de la rencontre au moment de l'exode hors d'Égypte, c'est-à-dire le nomadisme. Et de permettre de bien comprendre que le divin est là où nous nous tenons. Et le fait que ce soit le temps qui nous permette cette synchronisation, et plus l'espace, ça permet de dire que c'est bien l'ensemble de notre vie qui peut être placé devant le divin, et pas simplement un temps qui serait mis à part. J'ajoute qu'évidemment, comme vous l'avez fait remarquer, il y a l'histoire de la menorah, le chandelier à 7 branches. Et on l'a, notre chandelier à 7 branches. Il est du début jusqu'à la fin du texte. Hein. Les 7 jours. À mon avis, hein, la menorah est vraiment liée à ces 7 jours de la création. En fait, c'est les 7 jours de la création qui sont liés aux 7 branches de la menorah, on prend dans le sens qu'on veut. Pour montrer qu'il y a un lien, il suffit de penser à la fête des Lumières, Hanouka. La fête des Lumières, Hanouka, a 8 branches. Hein, donc on n'utilise pas une menorah, on utilise une Hanouka. Parce que c'est le temps qu'a duré la lumière produite par une petite fiole d'huile qui n'aurait pas dû durer plus qu'une journée. On a ça dans le livre des Maccabées. C'est un livre deutérocanonique qui raconte de quelle façon le temple a été purifié après sa profanation par l'occupant. Et donc, Hanouka, c'est cette fête où on allume chaque jour une branche de plus. Et on voit bien qu'il y a donc un lien entre la temporalité et les différentes branches de ces luminaires. Donc, quand on a au centre de ce texte le vocabulaire cultuel qui est injecté comme clé de lecture pour l'ensemble du texte, on voit bien qu'on a bien un récit théologique et pas un récit scientifique. Une fois de plus, c'est un vocabulaire qui n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. On est bien dans un mythe et pas dans un récit étiologique qui essaierait de nous expliquer la cause de ce que nous avons sous les yeux.
C'est pas scientifique
au sens de l'astrophysique, etc.
Je peux en revenir à ce qu'on avait au début, qu'est-ce que le temps, et à ma question, est-ce que le texte est construit en pyramide?
Oui.
Ce qu'on peut faire sur beaucoup de textes bibliques.
Oui.
Là, je trouve quelque chose qui le partage, c'est que c'est un texte où le temps est un temps linéaire, puisque c'est différent à chaque jour, Et il évoque en même temps, par le biais des saisons, un temps circulaire qui revient. Mm-hmm. Dans l'iconographie médiévale, j'ai beaucoup étudié l'iconographie médiévale sur la création. Et en général, il n'y a que des cercles dans ce thème. C'est le seul. Il y a des cercles tous les jours. Chaque jour, c'est sont des représentations circulaires, donc quelque chose qui revient.
Oui.
Donc moi, je suis tout à fait partagée entre le temps, il y a le temps qui avance,
la flèche du temps,
et le temps qui revient.
Alors, les textes bibliques, en fait, ont résolu cette équation qui est une équation technologique. Je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois avec Colette, parce qu'on a l'impression que ça tourne en boucle, c'est le sens giratoire de la vie. Mais je vous donne tout de suite la réponse. En fait, c'est un temps hélicoïdal. C'est le principe du tire-bouchon. Ça tourne, mais en même temps que ça tourne, ça avance. Donc c'est une rotation liée à une translation.
Sur le plan psychologique, le temps naturellement est un retour en arrière, mais sur le plan de la vie, c'est en avant.
Est-ce que vous pouvez repérer dans le texte ce qui vous donne ce double sentiment et qui, jusqu'à ce que je vous donne une hypothèse de résolution de tension, donne à la fois ce sentiment de rotation et ce sentiment de « ça avance ». Donc vous avez dit « il y a des choses nouvelles », donc là on sent que ça avance. Et le sentiment de rotation en dehors des saisons, il vient d'où d'après vous ?
Ben, il y a tout.
Ouais. Moi, ce suis visuel, et c'est vrai, je parle de ces images, parce que j'ai aussi...
Alors, c'est les images médiévales, etc., qui vous... Très bien. Mais dans le texte, en fait, on a ce sentiment de répétition qui crée cette révolution. Le fait qu'on a les mêmes expressions qui reviennent. Voilà. On a l'impression qu'on revient au point de départ. Mais en fait, on revient au point de départ parce qu'on a fait une boucle comme ça, mais on a avancé un peu. C'est le même principe quand on est éducateur social, etc. On a l'impression que les jeunes en difficulté dont on s'occupe reviennent au point de départ, mais en fait, ils ont un peu progressé. Voilà. Et il faut être sensible à ces petits progrès. Et c'est vrai aussi dans notre vie. On a l'impression que chaque jour, des fois, c'est la répétition insupportable. Vous savez, le fameux métro boulot-dodo. Il s'est passé quelque chose quand on a fait un petit pas de plus. Donc, effectivement, il y a de la circularité, mais ça peut quand même progresser un peu. Alors... On a vu que la création, c'était la réorganisation du chaos. Si on prend la terminologie grecque, c'est pour passer vers le cosmos. Le cosmos, c'est le monde organisé, en fait. C'est l'univers organisé, et notamment organisé avec le temps comme point de référence. Et le temps, je dirais que c'est la trace de cet ordre, de ce nouvel ordre. Le temps, c'est en quelque sorte une trace... qu'il y a eu justement une avancée. Dans la mesure où la pensée biblique n'est pas sur le principe du sens giratoire de la vie, le temps, en termes de discontinuité, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc il y a eu le surgissement d'un nouvel ordre. Et s'il y a de la nouveauté, il y a donc de l'altérité. Et en fait, dès le premier texte de la Genèse, on a l'altérité, ça veut dire que ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cette avancée. Pas nous en tant que je veux dire. Enfin, c'est pas moi. C'est nous, ça c'est possible, mais c'est pas moi seul. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui voit, qui n'est pas moi. Pour le dire autrement, pour que moi je vienne au monde, il a bien fallu que quelqu'un me nomme et m'appelle à la vie, en fait. Il a bien fallu que quelqu'un me parle et me fasse prendre conscience de qui j'étais et de ce qu'il y avait autour de moi. C'est le principe de l'enfant sauvage. Un enfant qui aurait tout notre équipement biologique mais qui ne serait pas dans une communauté humaine n'atteindrait pas nécessairement notre niveau d'humanité. On va s'entendre sur ce qu'est l'humanité après, mais en tous les cas, le fait d'être au bénéfice d'un autre, donc qu'il y ait de l'altérité, voilà ce qui nous permet de devenir humain. Et ici, c'est ce qui se passe quand vous disiez l'Esprit de Dieu était à la surface de l'abîme. En fait, l'esprit, qu'est-ce sinon cette capacité à mettre les uns et les autres en relation ? C'est ce qu'on a à Pentecôte. L'esprit, c'est ce qui nous rend capable de rejoindre l'autre dans son univers, sa langue maternelle en l'occurrence, et de pouvoir nous comprendre les uns les autres. Donc, l'esprit, c'est ce qui permet de révéler. C'est ce travail d'archéologie. Ce n'est pas un travail de création ex nihilo, c'est un travail de mise à jour. Maintenant, si on regarde un petit peu le jour, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un jour ? Qu'est-ce qu'un jour, selon ce texte-là ? Alors, c'est un laps de temps. C'est pas forcément 24 heures.
Verset 13 nous dit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour.
Oui, mais on peut dire qu'au verset 8, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ça ne nous dit pas trop ce qu'est un jour. On peut dire, le jour, c'est un soir et un matin. Mais un soir et un matin... Qu'est-ce qui... Ouais. Comme le disait Stéphane, on sent que c'est un laps de temps, mais ce n'est pas forcément 24 heures dans ce texte-là.
Oui.
Ben non, mais pour... Non, c'est pas 24 heures, mais du coup, ça serait quoi ?
C'est un laps de temps.
Un jour, ouais. C'est entre deux aubes, si c'est 24 heures, et si c'est 12 heures...
Ouais, mais je pense pas que ça se joue en termes d'horaire, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'heure. Prenez le texte, la réponse est dans le texte. Il est question de quoi ?
Ouais.
Mais si on prend un seul jour, alors vous allez me dire, c'est une succession d'un soir et d'un matin ou d'une nuit, d'un jour. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut passer à l'espace-temps suivant ?
Selon ce qui a été fait.
Qu'est-ce qui le borne, en fait ?
Un jour,
il y a deux temps.
Alors, il y a deux temps. Ouais. D'accord. Donc, vous voyez, c'est au niveau de la création ou de l'action de Dieu que le temps se définit. On pourrait dire, au fond, un jour, c'est ce qui désigne une action achevée.
Voilà. C'est ce qui a été fait dans ce laps de temps.
Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, sur le plan de la pratique pastorale, j'ai le sentiment que des fois, certains ont un peu du mal à se coucher ou à s'endormir, parce qu'en fait, la journée n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de difficulté à passer au jour suivant, parce qu'il n'y a pas encore eu un jour avant. Oui ? L'impression que notre journée n'a pas été une journée. Et que du coup, on essaie de gratter sur le temps qui reste pour qu'il se passe quelque chose. On aimerait que quelque chose arrive. Et dans une certaine mesure... Pardon ?
Il y a une autre solution.
Oui.
C'est le soir de faire la remémoration de la journée. Ça permet de boucler la journée.
Et ça permet de voir qu'il s'est passé des choses.
Qu'il s'est passé des choses, on en est content.
Bien sûr.
Et que c'est fini.
Oui.
Et ça, c'est quand même une école de méditation assez profonde.
Mais c'est bien là-dessus que je voulais vous emmener... C'est quand je vous disais que, en fait, ce texte nous fait passer d'une piété de l'espace à une piété du temps, c'est qu'il nous donne aussi des éléments d'une spiritualité. Parce que, si on voulait, on pourrait repérer qu'il y a une mystique avec la question de la nuit, hein, il y a la traversée de la nuit, en fait. Et puis, ce que vous dites, c'est cela. C'est, à un moment donné, en quelque sorte, lier la gerbe. Et c'est une pratique spirituelle qui peut se faire au quotidien. Chaque soir, faire le retour sur la journée... la remémoration, etc. Et quand Dieu dit, eh bien, c'est le passage d'un jour à l'autre, d'une unité créée à une autre unité créée. Il y a un septième jour qui est un peu à part. Le septième jour, c'est celui qui clôt la séquence des jours. Et c'est le jour de Dieu seulement. Il est juste question de Dieu dans ce jour. C'est peut-être ce lieu qui valide en fait tout ce qui a eu lieu jusqu'à présent. Si on essaie de le rapporter à quelque chose de praticable pour nous, on pourrait se dire, le septième jour, c'est peut-être ce qui vient signifier la fin d'un projet, un projet vivable. Vous voyez, un projet, ça peut se sectionner en petites étapes. Pour qu'un projet soit viable, vous voyez, un projet viable, c'est pas loin d'un projet vivable en fait. Pour qu'un projet soit viable, il faut qu'il y ait plusieurs séquences, et puis à un moment donné, il faut célébrer la fin du projet, dire que le projet a eu lieu. En quelque sorte, dire qu'il est achevé, et en quelque sorte, célébrer son anniversaire. Pourquoi est-ce qu'il est si important de célébrer les anniversaires ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire comme les témoins de Jéhovah qui ne les célèbrent pas ? Parce que célébrer un anniversaire, c'est de dire à quelqu'un qu'il a grandi, qu'il a vieilli, qu'il a mûri, qu'il n'est plus le même.
Moi, si je fais un anniversaire, je bénis la personne pour l'année qui est devant elle. Que cette nouvelle année qui commence, l'autre anniversaire, cette nouvelle année qui est devant toi,
soit bénie. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a eu de la vie.
Oui.
Voilà. Et qu'elle n'en est pas restée à un état stationnaire qui est en général celui de l'électro ou de l'encéphalogramme plat. Et donc c'est que la personne existe. Vous voyez, une fois de plus, le temps, c'est ce qui se permet de se tenir hors de soi. S'il n'y a pas de temps, en fait, il n'y a pas de rencontre entre nous. Et donc, on est soi avec soi. Mais le temps n'est, dans cette perspective, qu'une trace, qu'une convention. Ce n'est pas un être. Ce n'est pas une substance. C'est nous, c'est une fiction que l'on met en place pour pouvoir parler de nous. Pour pouvoir se repérer, c'est ça. Que le temps n'est pas une propriété de la nature. Vous voyez, ce n'est pas une créature. Ça n'a pas été créé en tant que tel. Donc le temps n'est pas une propriété de la nature. Le soleil, la lune ne sont pas des divinités. Ça, c'est une grande nouveauté hein, par rapport aux autres mythes. Ce sont des choses. Et l'ensemble de notre univers, c'est une série de choses, et qu'on le veuille, enfin qu'ils le veuillent ou non, les scientifiques peuvent être scientifiques grâce à ce texte-là. C'est-à-dire que c'est ce texte qui autorise la science, c'est ce texte qui autorise l'exploration du monde, parce que c'est ce texte qui dit que bah, c'est une créature et que donc vous pouvez y aller. Et on peut explorer l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc, le temps n'existe que selon la parole prononcée. C'est culturel. Hein, vous voyez, c'est pas quelque chose de naturel, le temps, c'est quelque chose de culturel. Et la mesure du temps, ce n'est pas le temps. C'est la raison pour laquelle Augustin va avoir un peu du mal avec le temps. C'est-à-dire qu'intuitivement, il sait ce que c'est, et dès qu'il doit en parler, il n'y arrive plus. C'est dans sa méditation, dans sa confession 11... Voilà, il dit, le temps, tant que personne ne me le demande, je vois très bien ce que c'est, et dès que je dois en rendre compte, c'est extrêmement problématique. Eh bien, le temps n'est pas le but. Et du coup, le temps est là pour servir. Et le temps, c'est ce qui nous permet d'objectiver, en fait, la mesure du temps, c'est ce qui permet d'objectiver ce que nous avons en commun, c'est-à-dire, c'est une convention que nous nous fixons pour pouvoir parler de cette communauté que nous sommes appelés à former. C'est pour ça que je disais que ça fait du lien. Et c'est en ce sens que ce texte est le premier texte religieux, au sens de religieux, qui donne du lien, qui relie. C'est ici un temps qui permet de créer quelque chose qui nous place dans l'universel. Premier par rapport aux autres, parce que dans la Bible, c'est le premier texte. Il y a d'autres textes religieux en dehors du judéo-christianisme, mais dans la Bible, dès le départ, on est dans une dynamique religieuse, en fait, au sens de relier.
C'est pas forcément le premier écrit, mais c'est le premier à lire.
C'est le premier à lire.
D'accord. Il y a un moment, il y a le temps suspendu, c'est verset 26. Dieu dit, faisons l'homme.
Oui.
Et ensuite, c'est 27, Dieu créa.
Oui.
Donc, comme s'il y avait une hésitation.
Oui. En tous les cas, il n'y a pas une instantanéité. Oui. Ouais. Il y a un délai.
Il y a le temps.
Dans deux séquences, je pense, dans deux rencontres, je pense qu'on essaie de travailler sur ce texte de Josué où on se pose la question de savoir s'il est possible d'arrêter le temps. Il a arrêté le soleil. Est-il possible d'arrêter le temps? Oui, bon, on verra après les modalités, mais est-il possible d'arrêter le temps? C'est quand même la bonne question. Ça va?
Est-ce qu'on peut dire hors du texte biblique, dans l'expression perdre son temps?
Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a perdu l'objectif? L'objectif qui est la communauté?
Oui, ou la vie, ou la possibilité de faire croître la vie. On pourrait dire qu'on a perdu sa journée, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de journée, en fait. Il n'y a pas eu un jour au sens de Genèse 1. En soi, on ne perd pas son temps, parce que le temps n'est pas une réalité matérielle. Par contre, c'est une façon de dire qu'il ne s'est pas produit ce qui aurait pu se produire.
Il n'a pas été efficace.
Il n'y a pas eu de création. C'est-à-dire qu'on était encore dans Erève, le soir qui est cette transition vers la nuit. Le nocturne étant réputé pour être le lieu des bêtes sauvages, enfin le temps des bêtes sauvages, et de l'inactivité humaine. On a ça dans un psaume. Et donc, l'humain est plutôt caractérisé par les moments diurnes, donc la lumière, et puis l'activité. Pour cela que le protestantisme va développer une sorte de répulsion de la paresse. C'est que la paresse est assez contraire à cet esprit que l'on trouve déjà dans Genèse 1, où une vraie journée, c'est une journée où il y a de la création. Alors après, il y a plusieurs façons de créer. Hein. Passer du temps en famille, c'est
créer.
Et oui, méditer au sens de mieux comprendre le monde, voilà. Bien, c'est créer le monde. Voilà. Et c'est après entretenir un rapport qui sera plus vivable avec le monde. C'est rendre le monde plus vivable. Au fond, on pourrait résumer à cela. Est-ce que notre journée a permis de rendre le monde plus vivable, aussi bien pour les autres que pour nous, voilà. Quand ça, on l'a réussi, en général, si on n'arrive pas à dormir, c'est parce qu'on est en train de célébrer cette bonne journée, quoi. Voilà, il est l'heure. Je vous propose qu'on s'en tienne là. Et la fois prochaine, donc, sur le livre de l'Ecclésiaste, Colette, chapitre 3, il y a un temps pour tout, et on verra ce qu'est à la fois la durée et l'événement, le kairos, l'instant. Voilà.